Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un migrant sur 10 serait déjà parti de la jungle de Calais, ce campement insalubre menacé de démantèlement dans les prochains jours. Nous irons sur place dans ce journal. L'égoïsme, la fermeture, le reniement ne mènent qu'au nationalisme. C'est la vision de l'Europe dessinée par François Hollande hier à l'occasion des 20 ans de l'Institut Jacques Delors. Un mince espoir de cesser le feu à Alep, en Syrie. Nouvelle réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que l'émissaire onusien pour la Syrie évoque la destruction total des quartiers est d'Alep, si Damas et Moscou n'arrêtent pas leur déluge de feu sur la ville. À 7h15, la question du jour, comment financer le patrimoine ? Exemple avec le château de Blois. Car c'est à Blois que les matins sont en direct aujourd'hui, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire. 8 historiens s'emparent des rubriques habituelles. L'invité de Guillaume Erner, à partir de 7h40, le dessinateur et cinéaste Riyad Satouf. Le ministère de l'Intérieur ne confirme pas la date du 17 octobre pour le démantèlement de la jungle de Calais, date avancée hier par le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a également exprimé de vives inquiétudes sur les conditions de démantèlement puis de nouvel accueil pour les migrants, en particulier pour le millier de mineurs présents dans la jungle. Le dispositif d'accueil des enfants non accompagnés n'est toujours pas opérationnel et il ne prévoit de toute façon que 72 places. Les forces de l'ordre sont, elles, prêtes à intervenir pour déloger près de 10 000 hommes, femmes et enfants. L'État prévoit de mobiliser une trentaine d'unités de gendarmes mobiles et de CRS, en plus de celles qui sont déjà sur Calais. Ce sont les ministres de l'Intérieur et du Logement qui donneront le feu vert de ce démantèlement quand les places en centre d'accueil et d'orientation seront disponibles. Il en manquerait encore 1 500 à 2 000 à ce jour. Mais déjà, sur le terrain, les migrants se préparent au départ avec les associations Mathieu Darrier.
Avant d'être délogés, certains migrants préfèrent partir. Ils prennent le train ou le bus depuis Calais, confirme Christian Salomé de l'Auberge des Migrants, dont 150 à 200 bénévoles sont encore présents quotidiennement dans la jungle.
Il y a déjà des départs, je pense qu'il y a au moins 1000 personnes sur 10 000 qui sont déjà parties. Probablement, d'une part, les personnes qui sont allées en Angleterre, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de monde qui passe. Soit ils vont vers d'autres endroits, vers le camp de Grande-Synthe, vers Paris. On est passé de 5 000 à 4 000 repas par jour. Actuellement, je pense que le centre Jules Ferry également est passé de 4 000 à 3 000 repas, si j'ai bien entendu les chiffres.
Lundi, comme chaque mois, un recensement des migrants est programmé par les associations, mais cette fois, il sera aussi l'occasion de faire le point sur les intentions des réfugiés.
Pour une partie, ils se préparent, pour une autre partie, ils n'y croient pas. Il y a environ la moitié des personnes qui se disent, oui, bon, il faudra que je me décide, il faudra que j'y aille, et qui nous demandent des sacs, qui nous demandent de quoi ranger leurs affaires. Donc ceux-là, oui, se préparent à partir. Et il y en a d'autres qui disent, vous avez vu toute cette ville, on va quand même pas tout casser toute cette ville, c'est pas possible, c'est trop gros. Et non, ils vont pas faire ça.
En quelques jours, l'Auberge des Migrants a distribué plus de 1500 valises et sacs. C'est le principal besoin de l'association aujourd'hui, avec encore et toujours des tentes pour les réfugiés qui reviendraient après s'être éloignés pour un temps.
Reportage signé Mathieu Darrier de France Bleu Nord. Par ailleurs, c'est aujourd'hui que le Conseil d'État se penche sur la fermeture des commerces informels installés sur la jungle de Calais. Fermeture voulue par l'État, mais invalidée par le tribunal administratif de Lille en août dernier. Calais, impasse pour les migrants qui tentent d'aller en Angleterre, la crise migratoire en Europe, la question des frontières, des thèmes au cœur d'un discours de François Hollande hier soir au Collège des Bernardins à Paris. C'était à l'occasion des 20 ans de l'Institut Jacques Delors, un groupe de réflexion sur l'Europe. Le chef de l'État a défendu la vision de Jacques Delors, une Europe en tant que fédération d'États-nations, l'analyse de Bruno Cadenne.
L'identité, les frontières, la souveraineté au cœur du discours de François Hollande, mais du point de vue de l'Europe. François Hollande a tout d'abord rappelé que l'égoïsme, la fermeture, le reniement ne mènent qu'au nationalisme et que l'idée de Jacques Delors d'une fédération d'États-nations était toujours d'actualité. Ce qui a amené le président de la République à parler des frontières extérieures de l'Union européenne le jour de la mise en place des gardes-frontières européens à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. « C'est notre responsabilité de garantir nos frontières extérieures, notre bien commun », a-t-il expliqué. François Hollande rappelant que sans cohésion entre pays européens sur le dossier des migrants, il n'y aura plus d'Europe. En ce qui concerne le Brexit, le président français a plaidé pour la fermeté face à Londres. Il faut qu'il y ait une menace, il faut qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un prix, a martelé François Hollande. Sinon, nous serons dans une négociation qui ne pourra pas bien se terminer. Si les Britanniques ont décidé de faire un Brexit dur, eh bien il faut aller jusqu'au bout de la volonté des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Sinon, a poursuivi le chef de l'État, il viendra à l'esprit d'autres pays de vouloir sortir de l'UE pour avoir des avantages supposés et aucun inconvénient, aucune règle. François Hollande a prononcé ce discours en présence de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et de Michel Barnier, en charge de la négociation sur le Brexit pour l'Union européenne.
Et par crainte d'un Brexit dur sans compromis avec Bruxelles, ce qui serait le pire scénario pour les milieux d'affaires, la livre britannique tombe ce matin dans les échanges asiatiques à son plus bas niveau depuis 31 ans face au dollar et depuis 7 ans face à l'euro. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence aujourd'hui à la demande de la Russie pour évoquer le drame qui se joue au quotidien dans les quartiers est d'Alep. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, craint que ces quartiers contrôlés par les rebelles ne soient totalement détruits d'ici la fin de l'année si le régime de Bachar al-Assad, appuyé par la Russie, poursuit son offensive. Des bombes sans répit depuis 2 semaines, des engins capables de perforer des bunkers, plus de 370 morts, la moitié des enfants et près de 1300 blessés. C'est le lourd bilan de cette opération menée par Damas et Moscou selon l'ONU. Correspondance à Beyrouth de Laure Stéphan.
Pour l'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura, c'est sans équivoque. La poursuite des raids massifs du régime syrien et de son allié russe contre les quartiers rebelles d'Alep risque de signifier la destruction totale de l'est de la ville d'ici la fin de cette année et la mort de milliers de civils. Tandis que Moscou et Damas affirment frapper les faubourgs rebelles pour déloger les djihadistes, le responsable dénonce le recours à un alibi, il l'avait déjà dit, il l'a répété. L'ex-front al-Nusra est bien présent dans l'est d'Alep, mais cela ne peut en aucun cas justifier le bombardement de toute une population. Staffan de Mistura a fait ses comptes, le groupe djihadiste compterait quelques 900 hommes, soit moins de 10% des forces anti-Assad déployées à Alep, soit aussi une goutte d'eau au milieu des quelques 300 000 habitants qui vivent dans la terreur des bombardements depuis 15 jours. Alors que les initiatives diplomatiques sont bloquées, Staffan de Mistura a fait une proposition très improbable, que l'ex-front al-Nusra quitte Alep et que Moscou et Damas cessent leurs bombardements, des propos raillés hier par des militants de l'opposition locaux. L'armée qui avance au sol a affirmé diminuer ses bombardements, mais il s'agit moins d'un apaisement que d'un ultimatum adressé aux civils, partir ou se retrouver sous un déluge de feu encore plus puissant.
Un déluge de feu que bravent chaque jour les casques blancs syriens pour sauver les civils, première victime de la guerre qui dure depuis plus de 5 ans maintenant en Syrie. Les casques blancs, une ONG constituée d'urgentistes, de brancardiers, de médecins, de pompiers, de secouristes, tous bénévoles, ils sont en lice pour le prix Nobel de la paix qui sera attribué aujourd'hui à Oslo. Et pour tout comprendre des combats acharnés qui se jouent depuis des mois à Alep, en Syrie, rendez-vous sur franceculture.fr pour retrouver des infographies et des cartes complètes. L'ouragan Matthew commence à frapper les États-Unis. Le président Barack Obama déclenche un plan d'aide fédéral pour la Floride, la Caroline du Sud et la Géorgie. Objectif, coordonner les secours. Plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral atlantique, battu par des vents puissants et une forte houle. Matthew, ouragan de catégorie 4 sur 5, aurait fait plus de 300 morts en Haïti, selon un sénateur élu dans le sud de l'île. Le sud d'Haïti ravagé, 80% des habitations sont endommagées, 350 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence. 1 millier d'emplois en moins à la Deutsche Bank. On savait que la banque allemande était empêtrée dans une situation inquiétante et ce nouveau plan de restructuration vient le confirmer. Un premier accord passé en juin avec le comité d'entreprise de la banque prévoyait déjà de supprimer 3000 emplois en Allemagne, sans compter que la banque, l'une des plus importantes d'Europe, compte supprimer 5000 autres emplois dans ses établissements à l'international. De façon générale, les banques européennes vont mal, très mal. Elles ont annoncé ces 4 derniers jours pas moins de 20 000 suppressions d'emplois à leur choix.
La deuxième banque commerciale allemande, Commerzbank, a fait savoir ces derniers jours qu'elle allait supprimer 9 600 postes. Avant cela, c'était la banque hollandaise, ING, qui annonçait 7 000 postes en moins dans les 5 ans. Et encore avant cela, un autre groupe néerlandais, BN Amro, prévoyait de supprimer, lui, 1 375 postes, sans compter l'espagnol Banco Popular, qui restructure son groupe en fermant 300 agences et supprimant 3 000 emplois. Une hécatombe qui continue, car l'année dernière, le secteur bancaire européen avait déjà sérieusement soigneusement écrémés. Et les Français ne sont pas en reste. BNP Paribas, Société Générale ont mis en place des plans de départ. Les Suisses, HSBC et Crédit Suisse ont fait de même. Alors que se passe-t-il dans les banques européennes? On a beaucoup parlé de la vulnérabilité de la Deutsche Bank, ce colosse au pied d'argile qui s'est rué sur les produits bancaires risqués pour s'assurer de la rentabilité. C'est cette rentabilité qui chute partout, à cause notamment de la politique de taux zéro de la BCE, une politique qui réduit considérablement les marges de ces banques. Pour retrouver de l'air, elles taillent dans les effectifs et se recentrent sur les activités les plus dynamiques, sans compter que les géants du secteur n'ont pas toujours bien su envisager le tournant numérique, que la nouvelle politique bancaire européenne leur demande également d'augmenter leurs fonds propres et que surtout la confiance dans l'économie et dans le secteur bancaire est au plus bas. Sans cette confiance, le cours des actions bancaires dévisse. C'est pour cette raison que le FMI leur a demandé mercredi à ces banques européennes de revoir de toute urgence leur modèle économique.
L'INSEE revoit à la baisse ses prévisions pour l'année 2016. La France terminerait sur 1,3% de croissance, ce qui se rapproche des estimations du FMI et de l'OCDE. Une correction qui risque de contrarier la trajectoire du gouvernement qui a calé son projet de budget sur une croissance plus élevée à 1,5%. Quelles conséquences les jeux vidéo violents ont-ils sur nos enfants? Éternel débat entre les psychiatres et les professionnels du secteur. Une question que l'on évoque ce matin à l'occasion d'une nouvelle campagne de sensibilisation. Elle a été lancée hier. Deux clips vidéo diffusés sur Internet, dans les cinémas et sans doute bientôt à la télévision pour promouvoir la norme internationale PEGI qui classe depuis 2003 les jeux par âge en fonction de leur contenu. Un logo obligatoire sur toutes les boîtes de jeux vidéo vendues en France, même sur les publicités. Une signalétique homologuée par le gouvernement et le CSA avec un but, responsabiliser les parents et veiller aux effets des images sur les plus jeunes. Reportage signé Clément Lacaton.
PEGI 18. Au revoir. Il y a un âge pour tout. Il y a un jeu vidéo pour tous les âges.
5 pictogrammes avec l'âge minimum conseillé de 3 à 18 ans. 8 autres logos décrivent le contenu de ces jeux vidéo. Le plus répandu, la violence. Sur les 1900 jeux sortis l'an dernier, 1200 sont considérés comme violents. Autre logo, les insultes, la peur, les scènes à caractère sexuel ou même la présence de drogue et d'alcool. Emmanuel Martin est le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
Les jeux vidéo vont aller jouer d'une certaine façon sur toute une palette d'émotions. Et à ce titre-là, l'industrie du jeu vidéo a créé cette signalétique qui est aujourd'hui soutenue par les pouvoirs publics pour justement indiquer que certains jeux vidéo n'étaient pas à mettre entre toutes les mains.
Car jouer en immersion pendant des heures, ce n'est pas neutre, nous explique le psychiatre Serge Tisseron.
Il y a hélas trop de parents qui ont tendance à surestimer les capacités de leurs enfants et donc les parents pensent que les jeux vidéo pour adultes finalement n'auront pas de conséquences dramatiques pour eux. Mais c'est oublier que les conséquences dramatiques des jeux vidéo, elles ne concernent pas ce que l'enfant comprend ou ne comprend pas. Elles sont émotionnelles. Des émotions comme la rage, la honte, l'angoisse, qu'il n'a pas les moyens psychologiques encore de gérer à son âge. Et c'est ça l'impact traumatique possible du jeu vidéo.
Et le danger, note ce psychiatre, c'est que les enfants ne réagissent pas de la même manière face aux personnages virtuels. Certains s'associent aux victimes et d'autres aux agresseurs.
Retrouvez ces clips de sensibilisation en vidéo ainsi que l'interview en longueur du psychiatre Serge Tisseron en une de franceculture.fr. Le temps de ce vendredi 7 octobre, un temps nuageux et frais dans la moitié nord du pays. C'est le retour du soleil dans le sud. Cet après-midi, il fera entre 14 et 18 degrés sur la moitié nord du pays, entre 18 et 24 au sud. Mais pour l'instant, il fait frais à Blois, 5 degrés environ ce matin.